Radio Okapi. À la présentation du journal, Jacques-Yves Molima.
Numérisation de la gestion dans les secteurs des passations des marchés publics pour renforcer le système de contrôle des finances publiques tant à l'interne qu'à l'externe. C'est ce qui sera fait avec le nouveau logiciel SIGMAP mis en place par le ministère du Budget. Son lancement officiel a eu lieu hier par le chef de l'État. Les états généraux des sports en RDC, les travaux ont été lancés hier à Kisantu, au Congo central. Les mots qui rongent le sport congolais seront passés au peigne fin par les délégués des différents secteurs et mouvements sportifs. Enfin, Madame Bintou Keïta est notre invitée dans cette édition du journal. La chef de la MONUSCO s'exprimera sur son bref séjour à Beni dans le Nord Kivu, où elle a échangé avec l'autorité urbaine et s'est aussi adressée au personnel civil et militaire de la MONUSCO. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Un nouveau logiciel pour gérer les fonds de l'État, principalement dans les secteurs des passations des marchés publics. Il s'appelle SIGMAP, Système intégré de gestion des marchés publics. Il a été lancé hier lundi à Kinshasa par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un nouveau logiciel du ministère congolais du budget pour la numérisation de la gestion des finances publiques, la traçabilité et la lutte contre l'opacité souvent décriée dans ces domaines en République démocratique du Congo. D'autres détails avec vous. Billy Ivan Lutumba.
En RDC, plusieurs faits et actes sont considérés parmi ceux faisant obstacle à une gestion efficiente des finances publiques. Le directeur du comité d'orientation de la réforme des finances publiques.
Le manque de discipline, le faible respect des procédures dans la gouvernance du marché public, les niveaux très faibles de taux de recouvrement budgétaire par rapport au potentiel fiscal du pays, déficit d'encadrement de la gestion de partenariats publics-privés.
D'après le ministre du Budget, Aimé Bougie, cet outil permettra d'automatiser l'ensemble des procédures de passation des marchés publics et de réduire le délai de traitement des dossiers, ainsi que d'assurer la production automatique des statistiques.
Le SIGMAP comprend un portail web permettant de mettre à la disposition du grand public toutes les informations pertinentes sur la procédure des passations et d'exécution des marchés publics. La mise en place du SIGMAP s'inscrit dans la démarche de garantir le bon emploi des fonds publics dès lors que les marchés publics représentent à ce jour 63% des dépenses réalisées par l'État. Ce portail web va assurer la suppression des contacts physiques entre les animateurs des institutions publiques et ceux du secteur privé, réduisant ainsi fortement les opportunités de corruption.
Le ministre du Budget précise en plus que le SIGMAP va intégrer l'enregistrement des plans de passation des marchés et le traitement automatisé du contrôle, a priori la gestion et la publication des avis des marchés publics.
Sachez qu'avant de procéder au lancement de ce nouveau logiciel SIGMAP, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a salué l'initiative du ministère du Budget. Il a aussi appelé tous les services de l'État à mettre aussi sur place des logiciels de ce type pour la gestion des fonds de l'État. Pour le président de la République, ce logiciel mettra au grand jour le processus et les informations qui jadis étaient encore opaques. D'où sa recommandation aux gestionnaires de fonds de s'engager dans la numérisation totale de la gestion publique en RDC. Suivez plutôt cet extrait que nous propose Billy Ivan Lutumba.
L'utilisation d'un système informatique intégré doit pouvoir permettre à notre pays d'accélérer sa marche sur la voie du développement. Il s'agit ici d'un mécanisme permettant de garantir la sécurité des fonds publics. Ce logiciel, un produit 100% congolais, prouve à suffisance que la République démocratique du Congo peut contribuer à la révolution du numérique dans laquelle le monde est engagé. Le système d'information qui est lancé traduit ma volonté et celle du gouvernement d'assainir durablement le secteur des marchés publics. Voilà pourquoi je recommande au gouvernement d'étendre l'usage de cet outil informatique à toutes nos entités publiques, à savoir les autres administrations du pouvoir central, les entreprises et établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées. C'est par cette recommandation que je lance officiellement le système intégré de gestion des marchés publics.
Et puis, comme vous le savez, la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, a pris fin dimanche à Tunis. La RDC était représentée par le Premier ministre Sama Lukonde, accompagné du ministre du Plan Christian Mwando Simba. À travers cette initiative, le Japon et l'Afrique ont discuté des questions de développement économique et environnemental. Cette question a fait l'objet du débat dans l'émission Dialogue entre Congolais de Radio Okapi hier lundi soir, présentée par Kéline Kouté. Tout en encourageant les pays africains, notamment la RDC, à participer à ce genre de forum, Frédéric Amani, un des participants à cette émission, estime que pour que l'Afrique tire profit de ses partenariats, ses dirigeants politiques doivent développer une intelligence stratégique à travers notamment un leadership visionnaire. On écoute Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi.
Les dirigeants africains, ils se contentent d'être en partenariat avec X pour peut-être soutenir leur mandat ou pour soutenir peut-être leur projet, mais malheureusement, ces partenariats qui est noué au nom de l'Afrique ou au nom des États africains, ne profite pas aux États, mais aux individus, ce qui est déplorable. D'où, je ne souhaite pas que l'Afrique rompe le partenariat avec ces pays précités, c'est-à-dire le Japon, la Chine ou les États-Unis, mais il faudrait une intelligence stratégique. Et cette intelligence stratégique n'est possible que par un leadership visionnaire, un leadership transformateur face aux partenaires X ou Y. Comment est-ce que nous allons nous comporter? Comment est-ce que nous allons mener nos échanges pour que cela profite à nos peuples, pour que cela profite à notre pays? Mais si nous allons nous contenter d'être en partenariat et que cela profite seulement à une caste ou à une classe et non à l'ensemble du peuple, que ce soit congolais ou africain, malheureusement, ça va être déplorable.
Le ministre congolais du plan qui a participé à ce forum de Tunis a annoncé lors de cette émission à laquelle il est intervenu que la RDC est partie défendre ses intérêts au sommet des TICAD. Christian Mwando-Simba soutient que les pays africains doivent se présenter à ce genre d'assises avec des projets bancables afin de profiter des retombées de ces partenariats avec les pays économiquement forts. On écoute Christian Mwando-Simba, ministre d'État, ministre du plan.
Nous devons savoir une chose. Chaque pays doit veiller sur ses propres intérêts. Il n'est pas question que le Japon, la Turquie, la Chine, les États-Unis, la France veillent sur les intérêts du Congo. C'est nous, les Congolais, c'est nous-mêmes, en tant que République, en tant qu'exécutif, qui devons veiller sur notre propre intérêt. Donc, lorsque nous sommes partis à la TICAD 8, nous sommes partis avec les intérêts de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que le Premier ministre Osama Lukonde, il a eu des apartés, notamment avec le président de l'Union africaine, avec le Premier ministre japonais. Pourquoi? C'est pour gérer l'intérêt du Congo. Aujourd'hui, le Japon dit qu'il donne, par exemple, 30 milliards de dollars sur 3 ans. C'est à la République démocratique du Congo de présenter des projets bancables pour que ces projets soient financés dans les 30 milliards. Si nous restons tout simplement à nous plaindre, nous n'allons pas avancer.
Dossier signé Guy Matetiongo. Autre nouvelle, les travaux des États généraux des sports ont été lancés hier lundi à Kisantu au Congo central. C'était en présence du représentant du président de la République, le ministre béninois des sports, les ministres provinciaux des sports et les mouvements sportifs. Après avoir brossé les mots qui rongent le sport congolais, le ministre des tutelles Serge Chembo Kondé a exhorté les participants à travailler de sorte que des solutions adéquates soient trouvées et rendues publiques à la fin des travaux. Plus de détails avec Enoch Matondo qui suit pour vous. Travaux.
Trois allocutions ont été lues. D'abord, le message des ministres provinciaux qui se sont plus apesantis sur les infrastructures sportives manquantes pour certaines provinces et vieillissantes pour d'autres. Les ministres provinciaux ont également décrié l'insécurité dans quelques provinces qui ne permettent pas d'organiser le sport et le manque de politique sportive dans toutes les provinces, en commençant par le niveau national. Prenant la parole, le représentant du mouvement sportif a planché sur le sérieux qui doit être mis dans l'organisation du sport dans notre pays. De son côté, le ministre des Sports Serge Chembo Kondé a rappelé que le sport, comme d'autres secteurs, est un vecteur de développement. Pour ce faire, il faut vraiment un bon diagnostic et sortir des résolutions qui permettront à notre sport d'aller de l'avant. Le dernier à prendre la parole, c'est Oswald Omeki, ministre béninois des sports, qui a été invité pour le partage de l'expérience du Bénin qui a fait un bond vers l'avant dans la politique sportive de 2016 à nos jours. Il a rappelé que le Bénin avait également les mêmes problèmes que la République démocratique du Congo. Cette commission a été formée et les travaux proprement dits commencent ce mardi 30 août 2022. De Kisantu au Congo central, Enoch Matondo, Radio Okapi.
Et puis, à moins d'une année du démarrage des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa, la plupart des infrastructures sportives sont encore au niveau de la fondation. C'est le constat fait par le directeur de ces Jeux, Isidore Nguanjangembo, lors de la visite des chantiers hier lundi dans la capitale. Il était accompagné de quelques experts de la présidence de la République et des ministères sectoriels. Suivez plutôt ce reportage de Vanessa Kongolo.
C'est lundi, les directeurs des Jeux ont visité tour à tour les travaux du centre de formation technique, ceux de la réhabilitation de la voirie et divers au stade de Martyr, la construction du village des Jeux sur les sites Tata Raphaël, les stades Tata Raphaël, les gymnases jumelés au minisport, ainsi que les terrains de foot à Oudjana. Isidore Kwandja donne ses impressions.
Le gros du travail qui est fait dans le cadre des infrastructures sportives, ce sont les fondations. Et les fondations, la plupart sont à 90%. La plupart des entrepreneurs m'ont dit qu'ils ont commandé des structures métalliques. Et ces structures métalliques pourront être ici à Kinshasa dans 2-3 mois.
Selon Cédric Diassiloua, directeur des travaux de l'entreprise idéale qui s'occupe de la construction du centre de formation technique, à ce stade, il est encore difficile de donner la date de la remise des infrastructures.
Aujourd'hui, nous sommes déjà à 75%. Les travaux déjà exécutés, il nous reste 25%. Pour la fin, ça reste à vérifier parce qu'on doit bouger le planning. Vu qu'il y avait des travaux non prévus qu'on nous a demandé de faire.
Isidore Nguandja exhorte les entreprises à finaliser les travaux dans les temps. Rappelons que les 9e Jeux de la Francophonie sont prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa.
Autre nouvelle, le phénomène Kuluna, cette délinquance juvénile dans la ville de Kinshasa, le nombre de jeunes appréhendés, surtout celui des récidivistes, inquiète et les autorités urbaines et celles de police se disent fortement préoccupées. Lors de la présentation publique ce lundi de 793 jeunes, dont des mineurs par l'unité de la police de lutte contre la criminalité, le gouverneur de province a déclaré que l'envoi vers Kanyamakassi sera au préalable minutieusement analysé. Sinon, c'est la direction des prisons de Angenga et Ekafela qui sera retenue pour décourager certains. Reportage, Billy Van Lutumba.
Condamnés même au niveau de la justice, certains sont plus d'une fois réappréhendés par la police qui souffre d'énormes difficultés financières pour ses opérations de traque et aussi pour la prise en charge alimentaire et même d'incarcération. Commissaire provincial de la police.
Nous avons la cartographie criminelle, nous connaissons que tel couloir habite à tel endroit, il est dans tel écurie. On organise un bouclier ciblé, 3-4 maisons, on prend ces gens-là, on les défait. Mais malheureusement, quand on les arrête, on les envoie au parquet et après, ils sont libérés. Mais nous, on n'est pas découragés.
Des mises en liberté et aussi intervention des organismes de défense des droits humains qui semblent annihiler ces opérations de la police. Georges Kapiamba, coordonnateur de l'ONG ACAJ, réagit.
Nous allons nous mobiliser pour faire l'observation, travailler avec les autorités judiciaires de manière à ce que ce genre de récidivisme ne puisse plus être démis. Nous serons aussi des gendarmes contre les mauvaises actions de certains magistrats.
Quant aux moyens financiers, la question semble dépasser l'exécutif provincial. Gentilin Gobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa.
La ville n'a pas non plus de moyens colossaux pour satisfaire toutes les demandes de la police. Mais néanmoins, nous essayons à chaque fois de donner quelque chose.
Cette quasi-impuissance de mise à disposition par la police des moyens financiers ne trouve pas non plus solution au niveau de l'autorité budgétaire provinciale. Godin Pouy.
Il est de la responsabilité du Parlement national de doter la police de suffisamment de moyens budgétaires. Elle dépend d'abord du gouvernement national.
Face à ces réalités, la police sollicite des autorités urbaines que les interpellés soient dans ce cas envoyés à la prison de Angenga et aussi celle de Ekafela.
Et puis Radio Kapi poursuit sa série de reportages sur le régime des embargos, sur les armes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous le savez, la résolution 2641 votée le 30 juin de l'année en cours par le Conseil de sécurité a fait jaser le débat sur un prétendu embargo de l'ONU sur les armes en République démocratique du Congo. Dans ce numéro, nous nous focalisons à savoir pourquoi en tant que garant de la paix et la sécurité mondiale, le Conseil de sécurité fait usage du régime des embargos sur les armes dans un pays ou dans une région. Grace Hamzati signe ce report.
Il sait tout d'abord de signifier que le Conseil de sécurité peut prendre des mesures pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. En effet, Les sanctions du Conseil de sécurité prennent diverses formes et visent différents objectifs. Elles vont des sanctions économiques et commerciales à des mesures plus ciblées telles que des embargos sur les armes. Tout en précisant que la RDC n'est plus concernée par un quelconque embargo sur les armes, mais plutôt par un régime de notification d'armes, Jean-Michel Dumont, officier des affaires politiques à la MONUSCO, explique ici la raison principale de ce genre de mesures.
Le fait est qu'un certain nombre d'armes se retrouvent entre les mains de groupes armés. Et c'est une des raisons de la persistance des conflits qu'on constate notamment malheureusement à l'est de la RDC depuis tant d'années. Et ce que le Conseil de sécurité souhaite, c'est qu'on en finisse et qu'on puisse empêcher toute fourniture d'armes à ces groupes. À partir de ce moment-là, ils auront difficile à se battre contre les FRDC.
Cet avis est partagé par un internationaliste congolais et professeur d'université au Nord Kivu que nous avons contacté. Il estime que le trafic d'armes étant une question internationale, il revient donc au Conseil de sécurité d'y veiller par un certain nombre de mesures afin de combattre l'activisme des groupes armés dans plusieurs régions du monde, notamment en RDC.
Actualité internationale.
Au Tchad, plusieurs partis au dialogue national se retirent des discussions. La dizaine d'ordres professionnels qui participent au dialogue a décidé de se retirer après la proclamation dimanche soir de la liste du présidium, estimant que le processus n'a pas été correct. Ce présidium sera dirigé par l'ancien opposant à Déby Père, Galingote Gata, mais plusieurs participants ont vivement protesté. Certains dénoncent une supercherie et annoncent qu'ils ne participeront plus au dialogue. Toutefois, le tollé ne semble pas émouvoir le comité d'organisation du dialogue qui annonce qu'il remettra ce mardi la gestion des affaires au présidium désigné dimanche soir.
L'invité.
La représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC a effectué un bref séjour hier lundi à Beni. Après échange avec l'autorité urbaine, Mme Bintou Keïta s'est adressée aux personnels civils et militaires de la MONUSCO présents à Beni. Se confiant à la presse locale et internationale, la chef de la mission onusienne a déploré les incidents enregistrés au cours des manifestations anti-MONUSCO dans la région. Elle a rappelé qu'il existe une procédure non violente pour demander le départ de la MONUSCO. Mme Bintou Keïta est notre invitée dans cette édition du journal. Elle répond aux questions de sa Diki Aboubakar.
Madame Bitou, vous êtes à Beni. La MONUSCO s'est provisoirement retirée de Butembo. Quelle évaluation faites-vous à ce stade, surtout que la situation sécuritaire demeure préoccupante sur terrain?
Alors, je suis effectivement à Beni avec toute une délégation qui m'a accompagnée. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le maire de la ville à mon arrivée et lui constate que la situation est en train de se calmer et que d'un moment à l'autre, il sera possible de reprendre les activités. Mais cela dit, au vu de l'hostilité qui a été une constante pendant plusieurs semaines et la continuation en fait des menaces sur les réseaux sociaux. Je pense que en tant qu'agent habilité pour la sûreté et la sécurité, c'est important d'être prudent dans le retour à des activités en sachant que l'impact de la situation qui a été vécue a été traumatisante non seulement pour la population elle-même, mais elle a été traumatisante aussi pour les personnes qui travaillent au sein de la mission MONUSCO. Et aussi, cette situation d'hostilité a impacté, a affecté la capacité de l'ensemble du système des Nations Unies, que ce soit les acteurs du développement ou les acteurs humanitaires, à pouvoir faire leur travail de façon appropriée. Et il faut juste se rappeler qu'à la fin de tout ça, il y a eu des morts d'hommes de part et d'autre, et c'est quelque chose qui est vraiment à déplorer.
Le sentiment anti-MONUSCO s'étend de plus en plus dans la partie est du pays. Qu'est-ce que la MONUSCO compte faire ou qu'est-ce qu'elle fait déjà pour regagner la confiance de la population?
Alors, vous savez, je crois que c'est important de sérier. Quand vous dites le sentiment anti-MONUSCO gagne de plus en plus de terrain. Moi, je fais de l'écoute de la population et à travers différentes parties prenantes et j'entends à la fois ceux qui sont contre, mais j'entends aussi ceux qui sont pour. Et malheureusement, d'une certaine manière, ceux qui sont contre sont les plus vocaux, sont les plus entendus et donc on a l'impression que tout le monde est représenté à travers ceux qui sont les plus vocaux. Moi, je veux m'accrocher à ceux qui sont les voix silencieuses et qui, et ça c'est encore quelque chose qui est dommage, se font terroriser, se font menacer par ceux qui sont les plus vocaux lorsqu'ils essayent de dire qu'ils ont une vue différente de celle qui est préconisée pour demander le départ de la mission. Alors moi, je compte justement sur vous, les médias, qui nous accompagnez aussi depuis 22-23 ans, de pouvoir expliquer c'est quoi le travail de la mission. Parce que vous n'êtes pas sans savoir ce que fait la mission et aussi les défis qu'a la mission. Personne ne dit que nous sommes parfaits. Et je crois que je le dis et je le répète en permanence, nous avons des défauts qui sont celles d'une mission de maintien de la paix, mais en même temps, il faut se rappeler que nous sommes conjoints et nous soutenons. Donc, quand on fait le bilan, il ne faut pas faire un bilan d'un seul élément du partenariat, il faut faire le bilan de tout le partenariat.
Il y a de l'opinion qui demande le départ de la MONUSCO. Qu'est-ce que vous dites à cette opinion ?
Le départ de la MONUSCO est quelque chose qui est acté depuis plusieurs années. Ceux qui se souviennent, il y avait dans le pays plusieurs endroits où il y avait les casques bleus. Aujourd'hui, les casques bleus ne sont plus que dans quelques provinces. Dans trois. Donc, et on parle de quoi ? On parle de 14-15 territoires où se trouvent les problématiques de présence des groupes armés au niveau local, mais aussi des groupes armés étrangers. On parle de Nord Kivu, on parle de Sud Kivu et on parle de l'Ituri, essentiellement. Mais ça, c'était pas la situation il y a des années en arrière. Donc, il faut aussi, comme j'ai dit, on est prêt à recevoir toute critique constructive qui nous permet de nous améliorer, mais il faut aussi dire toute la totalité de l'histoire et pas seulement une partie de l'histoire quand ça arrange.
Madame, la MONUSCO a suspendu ses activités à Boutembo alors que la population a besoin de sa protection. Vous comptez y retourner ?
Nous avons suspendu les activités en attendant de voir que la situation s'améliore. Vous ne pouvez pas aller travailler dans un environnement hostile. Vous ne pouvez pas exposer le personnel à un environnement hostile. Vous savez qu'il y a des procédures pour demander le départ d'une mission. Comme je l'ai dit, il y a eu des morts d'hommes. Vous pensez pas que c'est trop et qu'il y a une autre façon de demander le départ d'une mission.
Madame Bitou, merci.
Voilà, mesdames et messieurs, fin de cette édition du journal mise en onde par Dieudonné Nyangassa, coordonnée et supervisée par Pelé Kipela Mondo. Merci pour votre particulière attention.